Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario ! Ouais !
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious !
Il est espagnol, Rafael Jala !
Salut les légendes, bienvenue pour notre 66e épisode, pour la seconde partie avec notre triton national. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA, à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Henri nous confie avoir eu le boulard et pourquoi ça peut être important de l'avoir dans le tennis. Il revient pour nous sur le coaching de Yannick Noah et comment ce dernier l'a transcendé en 91. Il nous détaille les conditions exceptionnelles du Masters de fin d'année et les stars qu'il fréquentait à l'époque. L'ancien top 5 mondial nous donne sa vision actuelle du circuit et les dangers auxquels il fait face. On parle argent sans tabou et de sa vie d'homme en dehors des terrains. On s'est marré, c'était bon enfant et je suis sincèrement heureux de pouvoir vous proposer cet épisode avec une légende du tennis français. Un grand merci d'ailleurs à Capucine de l'avoir rendu possible. Et cette semaine, on lance notre 6e masterclass dédiée à la prépa physique. C'est la première qui est tournée sur le court. C'est avec Ralph Bogossian, un des deux prépas physiques de Benjamin Bonzi, actuel 63e joueur mondial. Il nous met ses connaissances à ta disposition pour travailler ton œil, ta vision et ta lecture du jeu. Et ta qualité de centrage à la frappe d'une part. La seconde partie de ce nouveau cours est dédiée au déplacement, au freinage et à l'ancrage pour une meilleure stabilité dans tes coups d'autre part. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser beaucoup plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière la balle. T'as accès à un programme détaillé juste en dessous, c'est le premier lien en description. C'est un nouveau cours d'une heure, enregistré sur le terrain, donc au soleil. Il est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, t'as le lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible en allant tout en bas du lien en description ou en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Place maintenant à notre 66e épisode et à la deuxième partie avec le héros de la Coupe Davis 91, Henri Lecomte. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
Le jour où tu as le plus ressenti la pression, c'était lequel, tu te souviens?
Roland Garros final, 88.
Et clairement, tu t'es fait tuer.
Ouais, parce que tu. J'ai pas su la gérer, toi. J'ai très bien su la gérer en 91, mais là, en 88, je l'ai pas géré du tout, quoi.
Ouais.
Bah, j'étais toujours Monsieur Bazien, moi. Toujours un petit peu plus de trucs que les autres.
Plus de quoi?
Je crois que. Bah, dans un petit peu plus, je faisais des trucs supplémentaires parce que, avant tout, tu sais pourquoi je le faisais? Parce que j'étais un joueur, moi.
Ouais.
Alors, je suis un joueur. Je suis pas un quelqu'un qui va vraiment pour bosser.
Sans,
je suis un joueur, quoi.
Santoro m'a répondu exactement la même chose.
Enfin, je veux dire, je suis un joueur.
Ouais.
Fabrice, ça se voit que c'est un joueur.
Ouais.
Ouais, il aime jouer au tennis, il adore ça, c'est sa passion. S'il aimait pas ça, voilà.
La fois où t'as eu le plus le boulard?
Ah, on l'a eu plusieurs fois le boulard. Hein.
Ouais.
C'est normal. Ça te permet de grandir.
Ouais.
Ça te permet aussi d'en prendre plein la gueule. Parce que, voilà. Hein, ça te permet aussi de comprendre certaines choses. Mais on l'a eu, il faut l'avoir un petit peu, bien sûr.
Tu te souviens d'une période à un moment donné où c'était pas joli?
Oui, la période, après 88, tu sais, quand tu perds la finale de Roland et que t'as tout le monde contre toi, que t'es même pas capable de pouvoir sortir dans la rue pour acheter une baguette de pain parce que tout le monde t'a su.
Wow.
À un moment, t'es un peu arrogant et puis tu te la pètes, hein.
Ouais.
Mais mettons, vous faites plus chier, quoi. Mm. Bon, et là, je l'ai bien senti cette année 88, hein. Donc, le boulard, ouais, parce que c'est aussi un peu humain. Parce qu'à un moment, on se dit, mais je suis au top. Cinquième mondial, où je suis toujours dans le meilleur joueur du monde. Ça va, quoi. Je suis Dieu. Personne ne peut m'atteindre. C'est là que tu prends la porte de Western dans la gueule, et ça te fait grandir. Hein.
Ouais. Quel a été ton partenaire de double qui t'a le mieux complété?
a invaincu en Coupe Davis, même si on n'a pas trop joué ensemble sur le circuit, mais qui?
T'as appris quoi à son contact en jouant au double avec lui?
Bah, moi j'étais le feu et lui c'était l'eau.
Ok.
Tout en mettant Yannick aussi dans le coup, tu vois, Yannick Legui, parce que Yannick on a gagné Roland. Voilà, c'est les deux avec qui j'ai vraiment. On a vécu des choses merveilleuses.
Pareil, à peu près, même question sur Yannick. Selon toi, quelle est l'essence de son coaching? En quoi ça t'a le plus servi?
Ben, je pense que Yannick, de toute façon, je pense pas, je suis sûr, c'est toute son expérience. Tous les moments où il a eu les moments de doute, ou aussi où lui, les moments de pétage de plomb, les moments qu'il a pu retranscrire, et qu'il a pu nous communiquer quand il était capitaine de Coupe Davis, parce qu'il n'avait pas gagné en simple. On avait joué ensemble en 82.
Ouais.
Et le fait d'être. C'est un rassembleur, Yannick. C'est quelqu'un qui. Yannick, de toute façon, s'il sent que tu vas dans sa direction et que tu as le potentiel, il fera le maximum, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Yann, c'était notre grand frère. Après, ce qu'il a pu faire par la suite, après, c'est lui personnel. Quand tu vois sa carrière, quand il a pu faire chanteur. Faire tout ce qu'il a fait, c'est exceptionnel.
Ouais.
Mais il a propre vision. Du moment que tu vas dans son sens, il donnera tout.
C'est bon ça. T'as participé une fois au master ou plusieurs fois? J'ai pas.
Oh là 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 là, toi, je vais te mettre des claques, toi.
Ah ben.
Trois fois.
Trois fois.
Quand même.
Ah. Quand même. Très bien. Est-ce que
vérifie
tu
peux. Vérifie un peu. Bon.
Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est justement que de participer au master de fin d'année?
Non.
En termes de conditions.
Attends, mais toi, tu peux pas imaginer. On a joué, nous, au Madison Square Garden.
C'est bon, ça.
Donc, j'ai une anecdote exceptionnelle. Alors, quand tu te retrouves avec Lendl, Villander, McEnroe, Noah, Connors, il y avait Edberg, Becker, Max, Yannick, Lendl, Tim Mayotte ou un Gomez, et tout d'un coup, toi t'attends, moi je dois jouer contre Edberg, et puis t'as chacun ta loge, donc t'as les 8 meilleurs joueurs du monde de l'année.
Ah, c'est exceptionnel.
Donc, c'est un truc de mutant, parce que tu passes une semaine, le mec, tu te prends pour Dieu, quoi.
Ouais.
Tu vois, c'est un truc exceptionnel. Et tu vas jouer là-bas, et à un moment, moi je dois jouer contre Edberg, je suis dans ma petite loge, et puis j'entends de la musique.
Ouais.
Et puis putain, c'est quoi ce bordel? Et puis j'irai à côté, puis tu me dis c'est quoi, puis je dois jouer Edberg. Je rentre dans la loge de Max, il y avait Sting qui chantait,
ouais,
avec Max, les Rolling Stones, il y avait Mick Jagger, il y avait Keith Richards qui était là, et les mecs qui chantaient avec la guitare, et tout le monde chantait, il y avait Yannick, on chantait, et on était le bordel. Et puis à un moment, il y avait le Jérémy qui dit faut y aller. Je dis bah attends, putain, on n'a pas fini, on chante encore un peu. Et il y avait Edberg qui m'attendait et tout, je suis allé jouer Edberg et je lui ai mis 1 et 2.
C'était l'échauffement, je dis, parfait.
Il comptait plus rien, mais j'ai perdu mes deux matchs, c'était pour du beurre, tu vois.
Ouais.
Et c'était drôle, toi, des anecdotes comme ça, t'imagines, toi.
Extraordinaire.
C'était ça, nos générations, nous, on n'avait pas de portable.
Ouais.
C'était la musique, c'était le Walkman, ouais. Mais les mecs venaient, on chantait, quoi. C'était un truc de fou.
Tu lisais l'équipe, ou tu regardais ce qui s'écrivait sur toi?
Bah oui.
Comment ça t'impactait?
Moi, j'étais assez impacté là-dessus. Ça me dérangeait. J'aimais mieux qu'on parle mieux de moi que mal.
Ouais,
on avait un, par contre, qui était un journaliste qui s'appelait Gérard Baudouin,
ouais,
qui était au Figaro. Il me cassait, mais du matin au soir.
Ah,
je pouvais gagner, mais il disait toujours que j'étais nul. Donc ça m'a commencé un peu à m'énerver. Puis un jour, il a eu une hernie discale. Il a été cloué au lit pendant 6 mois.
Et il a compris ce que tu avais vécu.
Et là, le mec, il a compris, il a fait « Ah, mais attends, je comprends, je suis désolé. » Ouais, bah oui, bah mon gars, putain, t'as pas arrêté de me tailler du matin au soir.
Mm-hmm.
Donc voilà. Mais sinon, c'était... ouais, c'était important, ça me touchait, toi.
Ouais.
Ça me faisait chier, quoi. Je me démerdais quand même pour essayer de mieux jouer, de pouvoir comprendre mieux de moi, quoi. Mais l'année 88, je peux te dire que j'ai bien morflé. Oh là là. Mm.
Tu te souviens de ta plus grosse fiesta sur le circuit?
Oh, il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a eu beaucoup, hein. avec Yannick. Aussi, on en a une à Monaco. Avant qu'on joue la finale du double, on va la veille dans une pizzeria, juste au-dessus du restaurant Rampoldi, et le mec, il vient nous voir, il me fait, les gars, vous pouvez tout casser ce soir, je refais le restaurant. Donc, je lui dis, mais non. Si, si. Et on a tout cassé. On a cassé les assiettes, les meubles. Moi, je rêvais de lancer une bouteille, tu sais, dans le bar, comme dans les westerns, tu sais, quand on les fait, les mecs dans les films, je l'ai fait. Et j'ai tout explosé. Tout. On a fini sur les murs, on a tout fait. Ça, c'était deux fous. À Monaco, les flics sont arrivés. Enfin, bon, c'est un truc de fou. Et Yann, avec toute sa bande de Brésiliens, là, où... Voilà. C'est bon.
T'as gagné 3 917 596 dollars de prize money, en simple et double confondu. Quel regard tu portes sur ce montant?
C'est énorme. C'est énorme. Pour l'époque, c'était énorme. Par rapport à aujourd'hui, on est bien loin de ce que peuvent gagner encore... Quand tu es cinquième mondial, voilà, c'est énorme.
Ouais. Okay. Est-ce que tu te souviens de la fois où tu as gagné ton premier gros chèque et ce que tu as ressenti?
Bah, la première fois que j'ai gagné mon premier gros chèque, j'ai acheté une montre à mon père.
Ah, et beau geste.
Voilà.
Et le plus gros craquage que tu as fait en termes de dépenses suite à voilà, un bon résultat?
Oh, c'est bagnole. Bagnole, je suis fou.
Ouais.
J'ai acheté des bagnoles, je roulais. Mais par contre, j'ai acheté parce que je roulais, moi.
Ouais.
Moi, je faisais des courses de voiture, tu vois, je roulais. C'était pas les trucs simplement pour. Voilà.
Avec ton vécu et ton expérience sur ce sujet, quelle est aujourd'hui ta définition de la richesse?
La richesse, c'est la santé, c'est ce que t'as dans ton cœur. Pour le reste, c'est tout du matériel, ça ne vaut rien. On peut le voir en ce moment, hein.
Ouais.
Moi, je veux dire. Et au contraire, je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir remettre un peu les pieds sur terre et de se dire qu'est-ce qui est important dans nos vies. Bien sûr que c'est bien d'avoir un bel appartement, une belle maison, d'avoir nos enfants en pleine santé, qu'on puisse être bien et qu'on travaille pour ça. Ça, c'est le plus important, tu vois. Après, le reste, c'est... Je te dis ça avec la voix du sage, parce qu'aussi j'en ai profité, parce qu'aussi j'ai eu la chance de pouvoir vivre des choses extraordinaires. Lorsque tu n'as pas vécu et que je peux comprendre certaines personnes qui vont dire « Ouais, mais Henri, ça va, il a vécu, il se la pète et tout ça. » Oui, j'avoue, je me la suis pété. J'avoue, j'ai eu la chance de pouvoir en profiter. J'avoue que j'ai connu ces choses-là, mais c'est pas la chose la plus importante. Et ça change rien.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube dès maintenant, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast, et un commentaire sympa sur les dos si du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. Pour rappel, t'as accès à la 6e masterclass avec le prépa physique de Ben Bonzi, actuel 63e mondial, Ralph Bogossian, dans laquelle on te donne toutes les clés pour travailler ton œil et avoir une meilleure lecture de balle sur le terrain d'une part, puis Ralph te montre et te transmet toutes ses connaissances pour mieux te déplacer sur le court, avec un meilleur ancrage et une plus grande stabilité à la frappe. Découvre la bande-annonce qui est juste en dessous, c'est le premier lien en description. Allez, on y retourne.
Quelle est ta vision des choses sur le circuit actuel qui peut être un peu lisse et aseptisé avec des codes bien établis, tu vois, des vestiaires dans lesquels rien ne fuite. C'est quoi ton point de vue là-dessus?
Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde sait tout sur tout le monde et tout et n'importe quoi, avec les réseaux sociaux, avec la connectivité, avec quand on voit sur les différents, tu sais, quand on voit les différents films, moi je vois beaucoup de séries en ce moment, il y a aussi des films d'espionnage et tout ça, mais bon, c'est déjà en route ici, hein. On sait tout sur tout le monde. Hein.
Ouais.
Je crois que, regarde la Formule 1, comment c'est devenu, et ça redevient, bon, là il commence à lâcher un peu la bride pour dire, bon, il faut quand même arriver que tout le monde soit un petit peu plus égal, tu vois. Malheureusement, le tennis, s'ils font pas attention, ils vont le tuer. Parce qu'il y a plus, il y a tellement de possibilités dans d'autres sports qu'on puisse voir maintenant sur le net ou sur nos smartphones, que si on fait pas attention, le tennis, il va passer de l'autre côté de la barrière.
Et ça veut dire quoi, selon toi? Ça veut dire qu'il faut changer un peu le format de jeu? Ça veut dire quoi, selon toi? C'est quoi ton intuition sur l'évolution du tennis?
Déjà, il faut qu'ils allègent le calendrier, il faut qu'ils arrêtent. C'est pas possible. Il y a beaucoup de tournois qui ne gagnent pas d'argent et qui sont vraiment dans une situation très compliquée. Qu'ils arrivent un petit peu à évoluer aussi, malheureusement, c'est un ancien qui dit ça, mais malheureusement, parce qu'il y a tellement d'autres sports où ça va vite, pouvoir aussi évoluer, que ça soit un peu plus dynamique, plus rapide, plus arrêter de faire les mêmes surfaces partout, parce qu'on a toujours les mêmes joueurs et ça joue toujours du fond de cours. On voudrait avoir des mecs qui soient un peu plus... qui aient un coup de poker,
ouais.
Tu vois,
ouais.
Des surfaces différentes. Et puis peut-être un format sur certains tournois plus court.
Ok.
Pour regarder.
En cas de jeu.
Tu sais quoi, sur les jeunes déjà, ils le font. Je pense que c'est bien parce que ça leur a permis de pouvoir prendre certaines missions. Sur certains tournois, peut-être trouver une. Peut-être en 4 jeux, peut-être pas, mais peut-être de jouer le Noah, et puis le jouer le Let.
Le Let, ouais. Ouais.
Et puis évoluer aussi dans les autres tournois.
Ouais.
Ils vont être obligés, sinon le tennis va mourir. Là, déjà, le tennis n'était pas dans une bonne situation parce qu'à part les tournées Grand Chelem, et encore, tu vois, je veux dire, là, ça va prendre un grand coup de casquette dans la tronche. Mais il va falloir qu'ils fassent attention parce que là ils sont en train de tuer le truc quoi.
Mmh.
Ils vont le tuer. Hein.
Quel est le joueur que tu admires le plus aujourd'hui?
Bon, il y en a pas qu'un. Mais bon, c'est Roger Federer, bien sûr. Roger, c'est une vie sur notre planète. Après, t'as tous les trois joueurs là que je vais nommer, même quatre, il y en a beaucoup. Mais vraiment, moi je mets Roger après Rafa et Novak, tu vois.
Ok.
Ces trois joueurs sont exceptionnels. On a eu auparavant des joueurs fantastiques, mais là, dès qu'ils vont arrêter, ces trois-là, là, dès qu'un va déjà arrêter, ça va changer la donne. Dès que les autres, dans 4-5 ans, même avant, pour certains, ou même pour Rafa, ça va changer le tennis. Hein. Les jeunes, là, ils se rendent pas compte comment ils ont marqué le tennis, quoi.
Mmh.
Et ça va être compliqué derrière. Hein.
Est-ce que tu as vécu des choses particulières que tu pourrais nous partager avec ces trois gars?
Moi, ce que je respecte, Jarius, on dit.
Ouais.
C'est leur simplicité, leur générosité. Voilà, ils sont. Tous les trois ont une personnalité différente.
Ouais.
Mais ils aiment le jeu. Tu vois, ils aiment. On sent qu'ils aiment le jeu.
Ouais.
C'est des joueurs. Rafa, c'est un joueur. Même quand on le voit jouer, ils se disent, mec, c'est pas un joueur. Mais c'est, il fracasse, quoi. Mais non, il adore le jeu. Roger, on le sait. Et Novak, c'est pareil. Ils adorent. Ils ont le truc en eux, quoi.
Mm-hmm.
C'est pas des besogneux. Hein.
Yes.
C'est des vrais joueurs.
Aujourd'hui, combien d'exhibs tu continues, de matchs exhibition tu continues à faire par an?
Pas beaucoup. Maintenant, c'est. Déjà, il n'y a plus de partie de sponsors. Moi, je fais les 4 tours de Grand Chelem, je fais 2-3 exhibits après dans l'année. Voilà. Je joue en double maintenant, hein, parce qu'en simple, mon gars, pour récupérer derrière.
À quel endroit tu préfères jouer aujourd'hui, chaque année?
Moi, j'adore l'Australie. Moi, je suis okay. J'adore l'Australie. L'Australie, après, bien sûr, Roland et Wimbledon, mais l'Australie, je trouve que c'est un pays extraordinaire avec une mentalité dans le sport qui est.
Avec un poil de recul, pourquoi toi, Henri? Pourquoi toi, t'as réussi et pas des dizaines, des centaines, des milliers d'autres gars?
Parce que j'y ai cru, j'ai rien lâché, parce que même dans les moments les plus durs, je voulais pas accepter.
Voilà. Ouais.
Faut pas accepter l'inacceptable.
Ouais, bien vu. Ta plus grande fierté relative à ta carrière? Yes. Et regret du coup, Roland?
Roland.
Ouais.
Roland, bien sûr.
Ton premier sponsor, ça a été Lacoste?
Non, mon premier sponsor, ça a été Marville.
Oh.
Les maquettes Marville.
D'accord.
Après, mon premier, ça a été vraiment un gros partenaire, ça a été LS.
Ah oui, ok.
Parce que c'était Guillermo et Yon qui étaient contre LS.
Ouais.
Et après, il faut savoir aussi que la Head Prestige a été faite pour moi au départ.
D'accord, la fameuse.
Ouais, la fameuse. Mmh. Parce que je cassais trop de raquettes et j'étais chez Head et ils l'ont faite pour moi.
D'accord. Et en quoi elle correspondait parfaitement à ton jeu?
Elle correspondait parfaitement à mon jeu et puis quand je frappais, je l'avais sifflé tellement fort. Les mecs, ils disaient, mais putain, Henri, c'est fou quoi.
C'est bon ça. Et est-ce que tu te souviens la toute première fois où tu as reçu une dotation de ton sponsor? Ce que t'as ressenti?
C'était quand je faisais le circuit d'un un lot. T'imagines quand t'as 16 ans et tu gagnes le premier tournoi ou un tournoi, on te donne un chèque, quoi.
C'est bon, ça. Ça qui est bon.
Ah, t'en souviens.
Depuis combien de temps t'es avec New Balance, là?
Non, je suis plus avec, je suis pas, enfin, il me filait les fringues l'année dernière.
Ouais.
Là, maintenant, je porte que ses chaussures. J'ai plus de contrat New Balance. J'ai jamais eu de contrat, d'ailleurs.
Ah, d'accord.
Je faisais pour Franck parce que je m'occupais un petit peu de la Ravane, Rezaï, là, qui voulait revenir, mais maintenant elle est partie dans une autre dimension.
D'accord.
Donc, on a eu le partenaire, mais là, moi, je porte juste les chaussures.
D'accord. Et, pourquoi avoir arrêté avec Lacoste? Comment ça fait que ça soit fini?
Parce qu'ils ont voulu arrêter.
D'accord. Et à Ravane, qu'est-ce qu'elle fait?
Je sais pas.
Ah, bon.
Elle vit sa vie.
Ok.
C'était une période qui était encore peut-être intéressante, mais après, elle voulait ses propres ailes, elle n'a pas voulu accepter de lui mettre en place.
D'accord. J'ai regardé un petit peu sur ton site internet. Comment ça se fait qu'on puisse acheter des trottinettes sur ton site, Henri?
Ah bon?
Ouais.
On peut acheter des trottinettes sur mon site. Ah ouais. T'es ouf, toi? Je vais regarder ça. C'est vrai qu'on va acheter des
trottinettes? Ah, je te jure.
Non.
Ah, mais c'est extraordinaire. Tac, tac. Attends, faut que je retrouve l'onglet. Ouais, t'as un onglet shop en haut. Et sur le shop, t'as Smart Scoo. Si je mets Buy This, elle est à... Ah ouais, bah ça.
Je vais demander à, parce que j'ai une personne qui s'occupe de ça, je vais demander qu'elle regarde ça. mais ça mourra de rire. Quoi. On a quand même mieux une trottinette que, je sais pas, des capotes ou des trucs. Hein.
D'ailleurs, t'as parié sur le développement du paddle. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus sur ton positionnement?
Bah, j'ai laissé tomber le paddle.
Ah bon? D'accord.
Ouais, j'ai laissé tomber parce que ça n'a pas du tout fonctionné en France.
Ok.
C'est bien dommage, mais ça marche très fort en Suède.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais en France, j'ai arrêté.
J'y joue beaucoup sur le Pays Basque et ça cartonne aussi parce qu'on est juste à côté de l'Espagne, je pense. Mais
bah ouais, mais il y a Couvercelle qui a monté un truc pas loin.
Aucune idée.
Mais si, pas loin là, Couvercelle. Il a monté 6 cours de paddle, mais il paraît que ça marche pas. Lui, les Pays Basques, ça marche. Mais je sais pas si il m'a dit que c'était compliqué là.
D'accord.
Couvercelle paddle, il y en a pas loin, je crois.
Tu joues toi un petit peu au paddle?
Ouais, j'ai joué beaucoup avant. Là, je joue un peu moins.
Ouais.
Bah là, je suis confiné, donc je ne peux pas jouer. Ouais. Mais sinon, à Paris, il y avait un truc à Port de la Chapelle, là, où il y avait 11 terrains.
D'accord.
Non, on va aller rejouer un peu. J'adore le paddle, c'est fabuleux. Moi, je joue en Espagne tous les jours. J'adorais ça.
Excellent. J'ai vu que tu jouais au golf aussi. Tu joues combien?
Là, j'ai repris un peu. Je peux jouer, toi, 14. Mais je ne suis pas comme qui joue tout le temps, qui joue 4, tu vois. Mais là, je vais commencer à vraiment m'y mettre. Là, j'ai commencé d'ailleurs, et parce que ça me plaît bien maintenant le golf. J'avais des problèmes de dos à l'époque, et j'avais un mauvais swing, donc j'ai pris plein de cours, et je commence à avoir un bon petit truc à compresser un peu la balle. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça commence à être intéressant.
Ouais, je vois pas du tout, mais j'imagine. Et la personne la plus improbable avec laquelle t'es fait un golf, une partie?
La personne la plus improbable avec qui j'ai fait un golf?
Barack Obama.
Non, j'ai pas eu cette chance-là. Plus improbable. Putain. À qui j'ai joué à la Rolex? J'ai joué avec qui? Plus improbable. Non, il n'y a pas eu, à part certainement au programme, au Trophée Lancôme, j'avais joué une fois avec Ballesteros.
Ah oui, sympa.
Une fois avec Bernard Langer. Une fois avec aussi Jean Van de Velle, Rémézy.
D'accord.
Un truc improbable que j'avais fait la Dunhill Cup à St Andrews en Écosse,
ouais,
avec Jean Van de Velle,
Ouais.
Donc imagine, c'était 2 mois après qu'il avait perdu en finale du British Open.
Ouais.
Et devant moi, un monsieur que j'adorais, j'avais sympathisé un peu avec lui, on se parlait, il était très gentil, c'était Payne Stewart. C'était le mec qui est mort dans son avion privé.
Ah oui.
Ça, tu regarderas, c'est un mec qui s'habillait d'une façon avec des pantalons un peu d'été drôle.
Ouais.
Et devant moi, il y avait donc Payne Stewart, Evan Lendl et Michael Jordan.
Ah, imagine. Belle brochette.
Et toi, tu joues à St. Andrews et t'as les gens qui se mettent comme les professionnels. Je leur fais, parez-vous un peu à droite parce qu'à mon avis, je vais en démater 2-3. Donc, on avait bien rigolé, on s'était marré avec Jean Van de Velde. Ça, c'est un très très beau souvenir.
Et Guy a pas essayé à t'apprendre à surfer sur la côte basque?
Bah, moi, j'ai essayé, mais le problème, tu sais, comme j'ai eu 3 hernies discales opérées,
ouais,
j'ai le dos, je peux pas me rester plus trop longtemps en cambrure parce que alors, sinon, je suis mort, quoi.
Ouais.
Trop mal.
Pour parler rapidement de ta carrière de consultant, la fois où tu t'es le plus foutu la pression, où t'avais les gens qui tremblent?
Ah, bah, les premiers jours.
Ouais.
Parce que j'ai arrêté ma carrière en 96 et tout de suite derrière, j'étais consultant à France Télévisions.
D'accord. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier?
Non, moi j'ai beaucoup appris. C'est un super métier, c'est un beau métier. Et je trouve que c'est fabuleux de pouvoir le faire. Moi j'ai eu la chance que maintenant Eurosport m'a donné ma chance quand j'ai eu mon émission pendant 6 ans.
Ouais.
Il y a l'avantage de compte, à un moment je l'ai présenté aussi. Ça c'est des moments extraordinaires. C'est fabuleux.
La partie la plus contraignante au contraire de ce métier, ce serait laquelle, selon toi?
Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a que du travail. Faut bosser. Tout le monde pense que ça se fait comme ça. Non, non, non. Tu bosses.
Si tu avais une astuce ou un tips pour ceux et celles qui font école de journalisme, tu leur dirais quoi?
Restez vous-même. Apprenez. Écoutez. Et surtout, gardez votre propre personnalité, quoi.
Yes.
C'est ça qui est important. Un bon journaliste, c'est celui qui a de la personnalité et qui ne fait pas comme les autres. On n'est pas des toutous. Dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Il faut que tu sois toi. Il faut que tu aies ta propre. Et surtout, ben, bosser et donner le petit coup de plus, quoi, le petit mot de plus, la petite anecdote de plus, le petit truc qui va faire que tout d'un coup, lorsque vous vous retrouvez devant une personne qui vous impressionne, comme nous, on peut jouer un joueur, eh bien, c'est d'être différent et de trouver l'endroit, le moment pour le faire un petit peu sourire, pour qu'il puisse un peu se dévoiler, quoi.
Yes. T'as jamais voulu coacher vraiment?
Bah, le problème, moi aussi, j'ai voulu un petit peu aider 2-3 joueurs, mais le problème, c'est que je connais toutes les ficelles pour pouvoir passer à côté des entraînements et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, entraîneur, je suis un chien. Je laisse rien passer.
D'accord.
Et si je l'entraîne comme moi j'ai fait, je peux te dire que, comme on a fait même avec Patrick et Chavagne, c'est dur, quoi. Donc, oui, mais il faut que j'ai la folie avec la personne avec qui je m'entraîne, toi, que j'entraîne. Et ça se passe bien, quoi.
Et justement, le joueur ou la joueuse que tu rêverais d'entraîner, ce serait lequel?
Ben, c'est moi. j'aimerais entraîner un mec comme moi.
Yes, c'est bon, ça. Et directeur de tournoi, est-ce que ça te brancherait?
Oh, bon, on me l'a proposé plusieurs fois, tu vois, de pouvoir être directeur, de pouvoir. Mais là, tu sais, je veux dire, moi, je suis président de club, le président de la section tennis de Levallois. On a 2400 licenciés, d'accord?
Ouais.
Sur 10 cours. OK? On a 1200 gamins.
Ouais.
OK? Donc, et pouvoir diriger un club ou être directeur d'un tournoi, faut avoir une super équipe. C'est pas le président, c'est ni le directeur qui fait le tournoi. C'est toute ton équipe. Ça veut dire que tu dois avoir une confiance sans borne. Une confiance, mais
aveugle,
exceptionnelle avec toute ton équipe.
Ouais.
C'est-à-dire que tu dois dire, voilà, toi tu fais ci, toi tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est ça un bon directeur, c'est ça un bon président, c'est ça une personne de pouvoir donner à tout son staff les différentes directions et aussi qu'ils prennent leurs propres décisions. Mmh. Ça c'est important, c'est pouvoir déléguer. Aujourd'hui c'est pas simple, hein.
Ouais.
C'est pas facile. Hein.
Ouais.
Donc il faut aussi donner la chance au produit. Comme on dit.
Yes. Quel regard tu portes sur la préparation mentale avec un coach vraiment spécifique?
Attends, mais moi, si j'avais eu ça avant, j'aurais été 10 fois plus fort.
Donc, tu juges que c'est indispensable aujourd'hui?
Oui, moi, je travaille maintenant avec ma femme, avec Maya, où on travaille beaucoup sur l'aspect mental. Je peux te dire que les meilleurs joueurs du monde, là, ils n'en parlent pas, mais ils bossent comme des chiens, hein, là-dessus. Hein. ils ont une personne qui s'occupe que d'eux.
Ouais. Hein? Mais tu dis avec ma femme, on bosse sur l'aspect mental, c'est-à-dire tu fais quoi précisément?
On travaille beaucoup dans différentes entreprises.
D'accord.
Sur l'aspect mental, comment rebondir, comment se remettre aussi en question sur différentes sociétés, que ça soit en groupe ou personnel.
T'interviens comme conférencier.
Voilà.
Ok. Ouais. Tu pratiquais la... Pardon?
Ouais. Non, j'interviens différents. Voilà, à chaque fois, et puis j'explique ma vie parce que ma vie c'est quand même des roller coasters, tu vois. J'ai des bons, des mauvais, des mauvais moments, des bons moments. Comment rebondir?
Ouais.
Donc ça, c'est à peu près bien en parler maintenant.
Yes. Tu pratiquais la visualisation pendant ta carrière?
Non, j'ai fait un peu de sophro à la fin, un petit peu, c'était tout le tout début, tu
ouais,
vois.
Ouais.
Mais c'était, à l'époque, faut bien dire que 80 et 95, toi t'étais pas né, mais je veux dire que quand on disait que tu voulais un psy, ça veut dire que t'étais malade, quoi.
Ouais. 80, 95, t'as dit?
Ouais, t'es né en quelle année, toi?
95, j'étais pas né? Bah, c'est gentil. C'est gentil, Henri, je le prends bien.
En quelle année, toi?
Je suis de 90, moi, monsieur le comte. Un grand cri.
80, bon, ben, ça va. Attends, en 80, tu connais, t'étais même pas, on t'avait même pas pensé comment t'étais. Alors, en des années 80, on disait t'allais voir un psy, t'étais malade, quoi.
D'accord, hein? Ouais.
En partir de 95, ouais, 95, ça commence à venir, tu vois. On commençait un peu à en parler, quoi. Mais aujourd'hui, c'est un terrain tabou, hein.
Ouais, je pense, clairement,
hein.
Clairement.
On veut pas en parler, c'est terrible, hein. Mais dans tous les domaines, hein. Que ça soit dans le sport, dans le business, mais tout le monde l'utilise, tout le monde.
Pourquoi on est tant à la bourre en France sur ce segment-là?
Mais parce que on est les Français, c'est moi, je sais mieux que vous, mais non, on n'a pas besoin, on est plus fort que vous. Putain, on est à la ramasse de ce côté-là. On est très très loin des autres. Tu vois des autres dans les autres sports, dans d'autres pays, mais ils le travaillent depuis des années,
Pour terminer.
Toujours, on a peur de dire, oui, non, c'est la médecine. Alors, la médecine fait ci, la médecine fait ça. Regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus. Hein. Puis c'est de rire, comme ça, moi, j'ai l'impression.
Ouais.
Tu dis tout.
Pour terminer, Henri, j'ai quelques questions qui sortent un petit peu du cadre tennis. Est-ce que tu as un talent caché?
Je cuisine pas mal.
Ah, bah, justement, le plat que tu cuisines le mieux?
Oh, je fais un peu de tout, mais. Moi, j'adore tout ce qui est un peu simple. Je peux te faire de l'agneau, je peux te faire du poisson, je peux te faire aussi des coquilles Saint-Jacques flaquées avec une purée de chou-fleur.
Génial.
Il faut que je te dise une chose, j'ai fait Celebrity Masterchef à Londres.
Ah ouais.
Je suis allé en demi-finale.
Énorme, c'est bon ça.
Et tu peux aller sur le net, simplement les desserts, je suis très nul. Donc à la fin, va sur le net, tu verras.
Comment s'appelle Masterchef?
Celebrity Masterchef. À Londres, c'était sur la BBC. Ben, tu vas sur Henri Lecomte,
ouais.
Sur le net, et tu fais Celebrity Masterchef.
Et tu t'es fait plaisir un peu, t'as régalé?
J'ai jamais autant eu de la pression, je te jure. J'avais plus de pression que d'aller jouer à Wimbledon.
Incroyable.
Tellement, c'est un truc de fou. Je me suis bien marré.
Si t'avais pas été joueur de tennis, Henri, t'aurais fait quoi?
J'aurais été pilote, moi. Moi, j'adore conduire. Je pilote, je fais des courses de bagnole. Je roule avec Eric Van de Viver sur une TVR de 1964. Je vais faire les deux tours d'horloge en fin d'année, là.
Ah, c'est bon, ça. T'as des...
J'ai fait le trophée Andros. J'ai gagné 24 heures de Chamonix sur glace avec la Gorse.
Énorme.
Tu vois, donc...
T'as des bagnoles de collection, un peu, des anciennes?
Non, j'en avais. Non, mais j'ai plus. J'ai eu trop de divorces.
Ah, d'accord. Bon. De quoi tu rêves aujourd'hui dans ta vie d'homme?
De ma vie actuelle.
Merveilleux.
Heureux avec Maya, avec mes enfants. Voilà, je suis heureux.
Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour essayer d'être un homme meilleur?
Ben, je me remets en question tous les jours.
Et concrètement, comment?
Ben, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé la veille, on sait bien, mais le lendemain, ben, on n'essaye pas, on fait. On fait, on essaye pas. Il ne faut jamais dire essayer. On fait. Déjà, on fait le maximum pour que tout fonctionne pour le meilleur du monde. Et puis surtout, on s'occupe de ses enfants. Et puis, on est toujours à la recherche d'être encore plus performant. Quoi.
Bien vu. Combien de temps tu passes par jour sur les réseaux sociaux et comment tu t'en sers?
Ben, aujourd'hui, beaucoup plus qu'auparavant. Sinon, on travaille parce que j'ai une personne qui travaille avec moi aussi là-dessus, parce que je suis pas non plus, je suis pas du matin au soir dessus.
Ouais.
Je pense que c'est important de pouvoir communiquer, de pouvoir dire ce que l'on ressent, mais de là à être du matin au soir, c'est pas mon truc. Voilà.
Ok. Un livre qui a marqué ta vie?
Un livre qui a marqué ma vie. Je t'avoue. Je lis pas beaucoup.
D'accord. Un film en particulier que t'aimes vraiment plus que tout?
Un film qui m'a marqué, c'était Le ciel peut attendre.
Ouais.
Un film extraordinaire. Après, j'ai un film que j'adore moi-même, qui est pour tous les effets spéciaux, c'est Avatar.
Ouais.
Avatar, c'est, pour moi, c'est. En plus, c'est beau. Pourquoi? Parce que c'est. Il y a un très beau message dedans, dans ce film.
Qui est?
On a toujours envie, qui est que malheureusement le gars est paralysé, et tout d'un coup il vit avec son avatar et qu'il réussit à revivre ce qu'il aurait pu vivre, des choses extraordinaires. Et puis c'est aussi de faire attention à ce que l'on a, à la terre, à tout ce qui. Aujourd'hui, ça va être de plus en plus, quoi.
Le ciel peut t'attendre. Quel était le message du film que tu appréciais particulièrement?
C'est ça, c'est toujours quoi? C'est toujours. Toujours y croire, toujours aller de l'avant, et être à la fois aussi raisonnable et serein, et puis sur terre, quoi. C'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de consommation.
Ouais.
On ne jouit même plus du moment présent. En plus, c'est moi qui te dis ça, Henri Lecomte, qui est quand même quelqu'un qui a une grande gueule et aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est fantastique, c'est merveilleux. On prend plus de temps pour pouvoir parler aussi avec les gens qu'on aime et expliquer voilà ce que l'on peut faire et non pas essayer d'avoir toujours rechercher pas la performance, mais rechercher ce que peut avoir mon voisin, pourquoi il l'a lui et pas moi, la jalousie, le truc. Non, au contraire, se recentrer sur soi-même.
En parlant du moment présent, tu fais de la méditation ?
Je travaille beaucoup avec Maya, on travaille beaucoup sur l'hypnose.
Ouais.
Là-dessus. Moi, j'ai fait beaucoup de séances, ça m'a beaucoup appris.
Okay.
C'est quelque chose qui est vraiment étonnant. Des années et des années. Et qui marche très très bien.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que tu suis un entraînement particulier pour rester fit?
Là, j'ai perdu 16 kilos. Parce que c'était pour c'était sur un pari, une anecdote. C'était pour. Puis on a fait un pari, et puis par la suite, t'as pu voir que je fais la pub comme j'aime. Tu l'as vu à la télé, franchement.
J'ai pas la télé, non, je regarde pas.
Non, très bien, mais c'est bien, t'as raison. C'est mieux. Je regarde pas la télé. Et donc, sinon, les villes, voilà. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir perdu mes 16 kilos parce que je m'étais aussi un peu lâché. Et puis, on réapprend à manger correctement et surtout à se sentir mieux, quoi.
Et t'as fait quoi? T'es retourné à la salle aussi? T'as couru? T'as fait du vélo?
Oui, retourne à la salle. Je fais beaucoup aussi, tu sais, le truc s'appelle électrostimulation où tu fais des exercices en même temps. T'as le courant, c'est ce qu'utilisait Usain Bolt.
Yes. Ok.
Et ça, c'est super. Fabuleux.
Ouais.
Je t'avoue, partir à la salle et rester 4 heures et lever des trucs, non, j'ai plus la force mentale. J'ai trop donné avant. Ouais. Par contre, je fais du vélo. VTT. Et là, je peux te dire que je range mon frein, c'est le cas de le dire, parce que là, putain, j'en peux plus.
Ouais. Quels seraient les mots que tu adresserais au petit Henri quand il a commencé le tennis ou quand il savait pas tout ce qui allait l'attendre? Quels seraient les mots que tu choisirais pour le réconforter et lui dire qu'il est sur la bonne voie?
Reste comme tu es, passionné, déterminé et amuse-toi.
C'est bon ça. T'as une citation particulière qui t'anime?
Qui sème le vent récolte la tempête.
Bien vu. Comment tu vis le confinement là, Henri? C'est quoi ta journée type de confinement?
Être à la maison, c'est vrai que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, mais j'ai pas trop de contraintes. J'ai la chance d'avoir un appartement sympa, mais le matin je me lève tranquille, petit citron chaud,
yes.
Un petit café, après exercice pour mon dos, un peu d'électro-simulation parce que j'ai aussi mon truc ici. Ensuite, après, je fais à manger pour ma femme. On fait la petite séance de yoga tous les deux jours.
C'est bon.
Je me suis mis un peu au yoga. Alors, je suis flexible comme un
clou.
comme un clou, c'est-à-dire que le clou encore, il est peut-être flexible, toi. je rêve comme un pastafé. Donc, mais ce qui est bien, c'est pourquoi ça m'apprend à avoir quelque chose de différent. Donc, on fait ça. Plus, moi, ça me reprend les postures que je faisais quand je faisais ma rééducation du dos. Ouais. Donc, ça, c'est bien. Donc, on fait à peu près entre une heure. Elle, évidemment, c'est la championne du yoga, position, je ne te raconte pas, elle est souple, c'est un chewing-gum. Donc, ça, c'est bien. Et puis après, je réponds un peu sur les réseaux, tu vois, ce qu'on a mis un peu en place depuis quelques jours, les meilleurs matchs de Roland-Garros, on va faire pendant tout le confinement.
Yes.
Et puis après, ça va être, on regarde deux, trois trucs, un peu des petites séries, et puis voilà, quoi.
Très bien. Qui est-ce que tu nous recommandes?
J'ai eu la chance de faire les courses aujourd'hui, j'ai pu sortir, donc je suis content.
Ah ouais. Ah ben là, t'es reparti pour 10 jours. Quelle personne tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast vraiment hyper intéressante avec laquelle on pourrait parler tennis?
Oh, il y en a un, il faut que tu prennes Marc Rosset.
Ah, Marc Rosset, on s'écrit, mais il met toujours 5 jours à répondre.
Ouais, c'est dommage parce que lui, putain, il peut te faire des anecdotes avec Roger.
Ah ouais, génial.
Ça peut être génial, ça, tu vois.
Génial.
Après, qui tu aurais d'autres Français qui va. Parce que le problème, c'est pas facile d'avoir des mecs. Je ne vais pas me lancer de fleurs, mais comme moi qui balance un peu, Stan Wawrinka.
Stan Wawrinka, hein, ça peut être sympa, ouais. Ça peut être sympa.
Stan, parce que j'adore ce mec, il a une personnalité totalement différente.
Ouais.
Il a une vision de la vie qui est assez intéressante. Après, tu as le barré complet, tu as Benoît Paire, mais bon, Benoît, il ne va rien te dire.
C'est pareil. On cherche à le contacter, c'est pas évident, mais on travaille.
Mélancolique.
Est-ce que tu nous aiderais à avoir Guy Forget?
Bah écoute, je vais voir ça avec lui et je te tiens au courant.
Génial. Merci Henri, vraiment. Merci beaucoup. Okay. À très bientôt.
Allez,
ciao, ciao.
Salut.
Ciao.
Merci Henri pour ce moment passé ensemble et merci à Capucine de l'avoir rendu possible. Viens nous dire en commentaire ce que t'en as pensé. J'adore lire vos retours. Mets-nous 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un like sur YouTube. C'est le nerf de la guerre pour nous aider à faire connaître notre travail. Et avoir des invités qui continuent de te régaler semaine après semaine. Le bouche à oreille, comme disent les réunionnais, marche à merveille aussi pour faire connaître et grandir le podcast. Alors envoie cet épisode à un pote à toi, à qui Riton remémorera quelques bons souvenirs de l'époque. Et abonne tes amis à la chaîne, que ce soit au format audio sur Apple Podcast ou Spotify, ou sur YouTube au format vidéo, donc directement sur leur téléphone, ne leur laisse plus le choix. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent. Tu peux aussi le faire à hauteur de 3 euros par mois, soit la moitié d'une paire de chaussettes, et ainsi mettre ta pierre à l'édifice. Ça fait plaisir. Cette semaine, on lance notre 6e masterclass dédiée à la préparation physique, et c'est la première qui est tournée sur le cours. Ralph Bogossian, un des deux prépas physiques de Benjamin Bonzi, actuel 63e joueur mondial, met ses connaissances à ta disposition pour travailler ton œil, ta vision et ta lecture du jeu, et ta qualité de centrage à la frappe d'une part, pour jouer et te déplacer tel un chat à la David Nalbandian. Et la seconde partie de ce nouveau cours est dédiée au déplacement, donc au freinage et à l'ancrage pour une meilleure stabilité dans tes coups. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser beaucoup plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière la balle. T'as accès à un programme détaillé et à la bande-annonce de ce nouveau cours en description juste en dessous. Il est de plus d'une heure, il est enregistré donc sur le terrain, au soleil, et c'est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, t'as un lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible en allant tout en bas du lien en description ou en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Si t'as des idées de partenariat ou autre, tu peux m'ajouter et m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Zamora, et sur Insta à Max Emia, le tout attaché, et Emia. C'est toujours un grand plaisir d'échanger et je réponds à tout le monde. À très vite avec un hors-série spécial prépa physique avec notre expert Ralph Bogossian. D'ici là, merci pour les bonnes ondes, prenez soin de vous et à très vite les légendes. Ciao.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage,
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.